L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Bérénice Deville.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine, bienvenue dans l'Hebdo Patrimoine. On est ravis de vous retrouver. L'Hebdo Patrimoine, c'est l'émission qui décrypte l'actualité, qui analyse l'actualité économique, financière et immobilière. Alors aujourd'hui, une émission 100% féminine, puisque je suis avec deux femmes en plateau. Et nous allons parler des femmes, de l'immobilier et des femmes, plus précisément. Alors à ma droite, Alison Janglin, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Ravie de vous recevoir.
C'est toujours un plaisir de venir sur votre plateau.
Investisseuse en immobilier et influenceuse aussi, par la c'est suite ça. Du coup. Et à ma gauche, Cécile Rockler, bonjour.
Bonjour.
Directrice des études chez Empruntis. Et donc, nous allons parler ensemble de l'immobilier et des femmes. L'Hebdo Patrimoine, c'est maintenant.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance. Sur Radio Patrimoine.
Alors, bon, déjà, pour commencer, on va vous présenter, hein, vous allez vous présenter. Alors, Alison Janglin, vous êtes déjà venue donc, sur notre plateau. Vous êtes investisseuse en immobilier, vous avez de nombreux biens que vous avez achetés toute seule. Voilà, vous êtes une femme qui avait réussi à investir toute seule dans l'immobilier. Vous êtes après devenue influenceuse en même temps, en fait, vous allez nous raconter, mais c'est venu un peu par hasard. Voilà, alors racontez-nous brièvement votre histoire.
Pour faire vraiment bref, en gros, j'étais sur les marchés, mère célibataire à vendre des vêtements, et je me disais, mais en fait, il faut que je sorte de là parce que si ma vie, c'est ça tout le temps, non, j'ai pas envie de ça. Et je me suis posé des questions, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et l'immobilier, ça m'a toujours attirée. Et au fur et à mesure des recherches, des choses que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que oui, c'était possible de vivre de l'immobilier. Peu de gens le font, par contre, c'est possible. Et là, je me suis dit, ok, on va tout faire pour réussir à ce que ça se concrétise, en fait, ce qui s'est passé, d'ailleurs. Et après ça, je me suis dit, ok, maintenant, je vis de l'immobilier. Par contre, je me sens un petit peu seule parce qu'autour de moi, donc, j'avais ma famille, mes amis, mais j'ai l'impression peu de monde me comprenait. Et je me suis dit, je vais aller sur Instagram et je vais créer un compte. Et puis, les gens qui vont être intéressés par ça, je vais pouvoir échanger avec eux. Et finalement, c'est devenu... Je pensais que moi, j'allais suivre des gens. Finalement, beaucoup de monde m'ont suivi. Et voilà.
Et je suis devenue influenceuse.
Très rapidement. Je ne m'attendais pas à ça. D'où l'intérêt de l'immobilier pour on voit aujourd'hui que ça intéresse beaucoup de monde et sur les réseaux, j'ai 80% de femmes.
Donc, ouais. C'est pas pour
donc
rien.
On voit bien que finalement, il y a un intérêt sur ce sujet.
Cécile Rockler, directrice des études chez Empruntis. Alors, Empruntis courtier.
Exactement.
Fondé en 2010, c'est bien ça?
En 2000. 2000. Nous sommes des experts du crédit, du financement au sens large, et on aide les gens, comme Alison et comme tous les Français qui veulent acheter de l'immobilier, qui ont besoin de recourir au financement et qui vont chercher à la fois du conseil et puis des solutions adaptées à leur projet, à leur profil, à leur vie, que ça soit pour faire de la résidence principale, de la résidence secondaire, de l'investissement locatif comme Alison, ou même faire des opérations visant à constituer un patrimoine avec de la pierre papier.
Donc les particuliers qui veulent acheter viennent vous voir. Vous avez un site internet, ils peuvent faire une demande déjà sur internet par exemple. Ils
tout
sont
à fait
rappelés
Bérénice,
après.
Oui, on a deux modes d'accompagnement. On a un site internet avec des courtiers digitaux qui sont donc en Île-de-France et qui vont faire de l'accompagnement à distance. Et puis on a 160 agences qui vous permettent de pousser la porte de n'importe quelle agence en France pour avoir ce conseil et cette recherche de financement adaptée.
Alors le thème d'aujourd'hui donc c'est l'immobilier et les femmes. Est-ce que première question, c'est plus compliqué d'acheter quand on est une femme?
Alors, en théorie, non, parce qu'il n'y a pas de discrimination à l'accès au financement quand on est une femme. Mais ce qu'on voit, puisqu'on regarde les femmes faire depuis de nombreuses années, et c'est un prisme qu'on aime beaucoup regarder chez Empruntis, c'est les femmes qui achètent seules, on se rend compte qu'il y a aussi, surtout, beaucoup de barrières psychologiques et culturelles à l'achat immobilier. Mais techniquement, si on va sur le financement, non, il n'y a pas de discrimination. Alors, il y en a une que vous allez tous reconnaître, ce sont effectivement les salaires, Bérénice, vous avez tout à fait raison, parce que quand on moyenne une femme à effectif temps plein identique, situation identique, elle gagne 10%. 10% de moins, et c'est une moyenne, forcément ça pénalise la capacité d'emprunt et ça pénalise le projet, mais techniquement en fait il n'y a pas de discrimination à l'accès au financement, il y a plein de subtilités, je suis sûre qu'on va en parler dans l'émission, et il n'y a pas de difficulté particulière à emprunter, si ce n'est les limites qu'on se met, et c'est souvent ça qui coince le plus. Alison, je suis sûre qu'elle pourra nous en parler.
Oui, alors Alison, quand vous l'avez dit, hein, vous viez les marchés, vous vendiez des vêtements sur les marchés, vous avez dit bon, là j'ai envie de faire autre chose, faut que je passe à la vitesse supérieure. Vous avez été démarché des banques, des courtiers, comment ça s'est passé ?
En fait, juste avant que j'aie cette réflexion de me dire j'aimerais vivre de l'immobilier, j'avais acheté ma résidence principale. Et là, c'était un peu la croix et la bannière parce que donc j'ai acheté pas seule, j'avais acheté avec le papa de mon fils à l'époque. Et donc j'avais 22 ans, j'ai démarché 12 banques, c'est la 13e qui m'a dit oui. Et en fait, on gagnait correctement notre vie, mais apparemment pas assez par rapport à ce qu'on voulait. Et je me suis dit, en fait, lâche rien parce que je me suis. Un jour, il y a, je sais pas, des centaines de banques en France, il y en a bien une qui va te dire oui, en fait. Et je pense que le mental, au niveau en tout cas de la femme, pour investir, je pense qu'il est, il a une place très très présente.
Et ça, c'est important de le préciser parce que c'est vrai que quand on essuie un premier refus d'une banque, on se dit c'est fichu, etc. Et c'est vrai que en parlant avec les gens, en discutant, parce qu'on en discute beaucoup dans nos émissions, les gens s'arrêtent en fait. Et c'est pour ça aussi que c'est important de faire appel à un courtier, c'est que vous faites
le tour de
toutes les banques en fait.
Exactement, Bérénice. Alors c'est vrai que c'est une notion que les Français n'ont pas forcément, c'est qu'en fait chaque banque a sa propre politique commerciale, chaque banque a ses propres critères. Vous avez on va dire un tronc commun ou un socle commun qui est le taux d'endettement, la prise de risque au sens large, mais en fait chaque politique va être différente. Et un refus d'une banque, ça ne veut pas dire un refus de financement, ça veut dire qu'il y a une banque pour laquelle vous n'êtes pas suffisamment séduisant ou votre projet est vu trop à risque pour être financé. Et c'est vraiment le métier du courtier. Il y a beaucoup de conseils parce qu'en fait c'est quand même le nerf de la guerre, c'est éclairer, décrypter, donner des clés de compréhension. Mais ensuite il y a cette capacité à aller solliciter un certain nombre de banques qui ont toutes des politiques commerciales différentes et de trouver celle pour laquelle votre projet va être vu moins à risque ou alors votre profil va être plus intéressant sur laquelle il va y avoir un match qui va se faire. Et ça, c'est le job du courtier. Et effectivement, vous avez raison, Alison, c'est pas un refus qui fait tous les refus. Et il nous arrive très souvent d'avoir même des clients qui viennent nous voir en nous disant « ma banque m'avait dit oui, finalement elle m'a dit non ». Quelle solution vous avez? Et on trouve des solutions dans 99% des cas. Donc, il ne faut surtout pas s'arrêter à un refus de sa banque.
Donc, il faut continuer, c'est le mot d'ordre. Alison, donc 12 refus. Vous étiez enceinte, non, à l'époque? Ça se voyait?
Oui, ça se voyait. Et
parce que ça peut jouer. Hein. Moi, j'ai des témoignages de femmes qui, enceintes, se sont vues refuser un prêt parce qu'elles étaient enceintes.
D'accord. Alors, moi, je ne sais pas si ça a joué dans le sens-là. Par contre, ça a joué sur ma détermination pour avoir le crédit, ça, c'est sûr. Parce que je voulais une maison et un jardin pour mon fils. Donc là, il n'y avait pas le choix. Mais je pense vraiment de se dire, on va y arriver. À un moment où, à chaque fois, moi, je sais que ça va finir sur... Parce que même encore aujourd'hui, j'ai des refus. C'est pas parce que... Des fois, même quand on a plus de crédits, des fois, les banques, elles ont encore plus peur. Donc, en fait, des crédits, j'ai pas compté combien j'en ai... Des refus de crédit, j'ai pas compté combien j'en ai eu, mais des dizaines et des dizaines. Donc, en fait, je sais qu'à la finalité, il faut que tout le monde comprenne qu'à la finalité... Ça va être bon. C'est juste, le chemin, des fois, il est un peu plus long, mais à la fin, il y a quelqu'un qui va dire oui, quoi.
Premier crédit, donc, vous étiez en couple, c'est ça ?
C'est ça.
Et après, les autres, vous étiez seule.
Voilà.
Et c'était des investissements, du coup ?
Alors, premier achat, c'était ma maison. Et ensuite, j'ai acheté donc deux petits appartements, un de 62 500 euros et un autre de 69 000 euros. Je ne pouvais pas me permettre plus, de toute façon. Hein, donc, j'ai vraiment fait... ils n'étaient pas spécialement rentables, ces appartements. Par contre, ce qu'ils m'ont apporté, c'est déjà ça de me dire... Les banques, en fait, ils prêtent. Donc, même s'il y en a une qui dit non, même si au début, pour mon premier crédit locatif, on m'avait demandé un apport que je n'avais pas, j'ai réussi à renégocier pour ne pas donner d'apport.
Pas d'apport, oui.
Donc, le deuxième crédit que j'ai eu locatif, ça faisait 2 ans que j'étais... ça faisait que 6 mois que j'étais sur les marchés. J'avais mon fils qui était tout petit. J'étais célibataire. Donc, en fait, j'avais rien pour... Parce que les banques, quand on est à notre compte depuis pas très longtemps, c'est pas le top, quoi. On n'a pas le meilleur profil. Et finalement, c'est passé. Parce que je pense que j'étais tellement déterminée, vu que j'avais eu le premier bien locatif, je me suis dit, ils vont me financer le deuxième, en fait. Mmh. Et c'est passé.
Ouais.
Parce que je pense que, en fait, moins on doute de nous, plus on a de chances que ça se produise.
Il y a des différents éléments que vous évoquez, Alison. Alors, tout à l'heure, on parlait du fait d'être enceinte. Être enceinte en soi, c'est pas une discrimination, mais effectivement, pour les banques, ce qui va être important, c'est de regarder ce qui va rester pour vivre à la fin du mois, une fois qu'on a payé exactement l'ensemble de ses charges. Et le fait d'être enceinte, ça veut dire qu'il y a un enfant qui arrive, qu'il va falloir le nourrir, s'en occuper. Et donc, pour les banques, ça va être un critère supplémentaire à prendre en considération. Ça veut dire qu'il faut rajouter, selon les banques, entre 150 et 400 euros par enfant supplémentaire à prendre en charge. Donc, ça veut dire que ça limite votre reste à vivre. Et ça veut dire que ça peut être une contrainte de prise de risque pour la banque. Ensuite, effectivement, le fait d'être multi-investisseur, alors là, il va y avoir des politiques très différentes entre les banques. Vous avez des banques qui vont nous dire... Premier investissement locatif, c'est hyper touchy. Je ne sais pas comment la personne elle va gérer son investissement
locatif.
Comment
elle va réagir? Comment ça va se passer?
Est-ce qu'elle va arriver à percevoir ses loyers? Est-ce qu'il va y avoir de la vacance locative? Est-ce qu'il y a assez d'épargne résiduelle pour justement, en cas de vacances locatives, combler le trou et payer les mensualités? Et donc, je vais peut-être être plus prudent et pas aller sur certains types de dossiers de primo-investisseurs. Et puis, il y a d'autres banques qui nous disent, au contraire, moi, je trouve que quand il y a une démarche comme ça, volontaire, d'aller construire du patrimoine, avec... plus ou moins de fiscalité, et puis vous le disiez, une capacité à maîtriser son projet, c'est-à-dire que je ne vais pas aller tout de suite sur un bien à 150 000, à 200 000, je vais avoir une vision très pragmatique de mon investissement en disant, je fais un petit achat, mais je vais le rénover, et puis je sais que j'ai étudié le marché, mes loyers vont être largement supérieurs à ma mensualité, et tout ça, ça va conforter le banquier et le fait lui donner envie de vous suivre. Donc il y a vraiment autant de cas de figure que de projets qu'a pu faire Alison.
Alors ça, j'ai une question, je me fais un peu l'avocat du diable, est-ce que ça sera toujours le cas, parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup de liquidités. C'est l'actualité. Là, les taux directeurs de la BCE remontent. Du coup, les banques, forcément, vont faire remonter leurs taux également. Elles vont moins prêter. Il y aura moins d'argent en circulation. Est-ce que, du coup, elles vont plus facilement donner pour un investissement locatif? Est-ce que ça sera toujours le cas?
Alors, plus globalement, vous avez raison, aujourd'hui, les taux remontent. On était à 1% en taux moyen sur 20 ans en début d'année. Aujourd'hui, on est à 1,55%.
Ça pouvait que remonter en même temps, là.
Oui, alors, complètement d'accord avec
vous. C'est vrai que là, on achetait gratuitement, en fait. On achetait...
Les banques, ça les arrangeait pas, finalement, de nous prêter.
Non, et puis avec l'inflation, en fait, quand vous utilisez le levier du crédit aujourd'hui, en fait, techniquement, on vous prête de l'argent en vous rémunérant. Bien sûr. Parce qu'en fait, les taux de crédit sont largement inférieurs à l'inflation. Donc, effectivement, on était au plus bas historique. On n'avait jamais connu ça. On a une remontée des taux, mais quand vous êtes à ces niveaux de taux, en fait, on fait encore de très, très belles opérations
financières.
Oui, pour
l'instant, c'est une légère remontée.
Oui, et puis même si ça continue, on ne se souvient pas, mais il y a quelques années, on était à 4, 5, 6%.
J'ai acheté ma première maison à 4,40%. Je l'ai revendue 4 ans plus tard, je me suis fait 117 000 euros de plus-value.
Oui, mais alors, parce que les prix à l'époque, les taux étaient hauts, mais les prix étaient moins élevés aussi.
Alors, ils poursuivent leur hausse, vous avez raison, mais en fait, on est sur un marché où il y a tellement d'absence de biens, il y a tellement de besoins immobiliers, qu'en fait, aujourd'hui, si vous achetez le bon bien, et c'est un élément majeur d'un investisseur immobilier, c'est de choisir le bon bien au bon endroit, celui qui va se valoriser, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à acheter un bien dans une zone ultra détendue, où il y a déjà beaucoup de vacances locatives, où il n'y a pas de différence entre les typologies de propriétaires, où il n'y a pas de développement d'infrastructures, où il n'y a pas de bassin d'emploi, le choix de les choix qu'a dû faire Alison, ce sont des choix éclairés. Et c'est un élément majeur de l'immobilier patrimonial. Mais alors, pour revenir sur les taux, oui, ils vont remonter. Est-ce que les banques vont arrêter de prêter? Non, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que le crédit immobilier, c'est le moyen de conquérir de nouveaux clients.
Bien sûr.
Donc, en fait, elles ne peuvent pas s'arrêter de prêter. Elles ont besoin du financement. Et puis, ça alimente une machine économique. Le bâtiment en France, c'est un élément clé. Le logement, on aura toujours des besoins de logement. Et en fait, quand on voit qu'il y a
des énormes besoins de logement.
Exactement. On a une pénurie de logements en France qui est de l'ordre de 500 000 logements par an. Donc en fait, si vous choisissez le bon bien et que vous avez le bon projet et que vous montrez à la banque que vous êtes sérieux et que votre projet il est réfléchi, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas un financement. Est-ce que ça sera plus facile demain que hier? Non, probablement pas, parce qu'on a quand même aussi une réglementation qui se durcit. On a des organismes, des organes de contrôle qui veulent en faire en sorte qu'il n'y ait pas de bulle immobilière qui explose. Donc il y a une tension sur le marché du crédit immobilier qui va certainement moins faciliter le financement, mais encore une fois, un bon dossier, bien préparé, bien amené, bien argumenté, ça se finance.
Donc, Alison, vous le disiez, l'argumentation. Comment vous avez réussi à faire des choix aussi éclairés? Parce que vous, c'est ce qui s'est passé. Enfin, c'est ce qui continue de se passer, en fait. Chaque investissement, c'est une réussite. Vous achetez donc des biens que vous réussissez parfaitement à louer dans des zones... Voilà. Comment vous faites à chaque fois pour avoir le recul nécessaire de se dire « Ce bien, bah voilà, ça va marcher, je vais avoir aucune ou très peu de vacances locatives. Comment, parce que vous n'avez pas de formation en immobilier à la base, comment vous avez réussi à faire ça ?
Au début, j'arrivais pas vraiment. Ça veut dire que les deux premiers que j'ai achetés, il y en a un, d'ailleurs le deuxième que j'ai acheté, je l'ai toujours aujourd'hui parce que même si je le vends, pour le peu que ça me rapporte, je préfère le garder et qu'il se rembourse tranquillement. Mais le premier, je crois que, je ne sais plus, j'avais compté, mais par an, je mettais plus de 1 000 euros de ma poche. Enfin, ce n'était pas rentable. Il y avait de la vacance locative plus que prévu. Bah, d'ailleurs, je n'avais pas de prévision. Je ne savais pas comment on analysait. J'ai acheté dans un secteur où moi, je trouvais que c'était bien. Finalement, c'était, enfin, au niveau de la location, ce n'était pas bien. Mais par contre, quand je l'ai revendu, parce que je me suis dit, bon, je ne peux pas le garder à vie, parce que là, si j'en ai 10 comme ça, je coule, quoi. Ouais. Donc, je me suis dit, bah, je vais le revendre. Mais là, je me suis dit, bah, vu que je dois le revendre, je ne vais quand même pas le revendre comme il est là. Je vais le faire le plus beau possible et on va voir ce que ça donne. Et là, donc, alors, il faisait 48 mètres carrés. J'ai fait 6 000 euros de travaux. De toute façon, je n'avais pas plus. Et je me suis dit, ben, comment je fais avec ces 6 000 euros-là? Je savais à l'avance, en fait, je connaissais mon montant avant de voir l'appartement. Ça veut dire qu'en gros, ben, j'avais 6 000 euros, peu importe si l'appartement il faisait 15 ou il faisait 60, j'avais que 6 000
euros. C'était que 6 000 euros en poche.
Donc je me suis dit, là, les 6 000 euros-là, il faut vraiment bien que je les utilise. Donc je me suis dit, ben, je les mets dans la cuisine, dans la salle de bain, parce que ça, c'est ce qui donne le plus de valeur aux yeux des gens. J'ai acheté quelques meubles pour un peu meubler, même si je le vendais, pour que les gens se projettent plus. Et je l'ai vendu 60 000... Enfin, dans ma poche, il restait 60 000 euros une fois que j'avais payé les impôts. Et là, je me suis dit, bon, d'un mauvais investissement de base, j'ai réussi à faire ça. Maintenant, après, je comprenais mieux voilà, qu'il y avait des secteurs qui étaient mieux que d'autres. Et puis, j'avais 60 000 euros en poche, que je n'avais pas du tout avant. Et là, je me suis dit, bah, en fait, j'ai compris que... Déjà, il y a une règle, vraiment, si on achète... En tout cas, alors, ce n'est pas une règle qui est écrite quelque part. Hein, ce n'est pas des chiffres officiels, c'est moi qui le... Si on achète à moins de 10 minutes d'un centre-ville et à moins de 10 minutes d'une entrée d'autoroute, on ne peut pas se tromper. Donc après, il ne faut pas acheter dans des quartiers qui sont très mal fréquentés, par exemple, ou des choses comme ça, parce que s'il y a une vacance locative et qu'après, ça se fait squatter ou voilà, des choses comme ça. Mais sinon, honnêtement, on ne peut pas se tromper.
Donc il y a quelques règles d'or comme ça avec lesquelles on ne peut pas se tromper.
C'est ça.
On va faire une petite pause musicale, on va revenir dans quelques minutes, on donnera des chiffres justement, hein, on a de la data grâce à Cécile, et puis vous nous donnerez d'autres conseils. Alison, petite pause musicale, on revient. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border, like the air I breathe. I let you in, keep me warm underneath my skin. Cause I'm giving in to your touch. I can never get. Sur Radio Patrimoine, Mike Perry, The Ocean, feat. Shai Martin.
L'hebdo patrimoine. l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
On est de retour, l'hebdo patrimoine 100% féminin, 100% immobilier, l'immobilier au féminin avec Alissane Janglin et Cécile Rockler, j'allais mélanger les deux. On parle donc des femmes qui achètent pour elles-mêmes ou pour donc pour une résidence principale ou pour un investissement immobilier. C'est le cas d'Alissane qui a réussi en investissant dans plein de biens immobiliers. Cécile Rockler, chez Empruntis, comment ça se passe en ce moment? Comment ça se passe? Quelle est l'actualité? Qui vient vous voir?
Alors, toujours beaucoup de Français, parce qu'en en plus, avec la remontée des taux, il y a une forme de pression sur la réalisation des projets, parce qu'on se dit que...
Il faut aller vite.
Oui, il vaut mieux maintenant que plus tard. En plus, on a une forte contrainte avec le taux d'usure, qui est la ligne rouge que les banques ne doivent pas franchir en matière de financement. Donc, ça met beaucoup de pression sur les emprunteurs. Globalement, depuis la crise sanitaire, on a beaucoup plus de couples qui arrivent à réaliser leurs projets que de solos. Malheureusement, parce qu'en fait, vous avez une situation qui repose sur un seul revenu quand vous êtes solo, et ça crée beaucoup de contraintes à l'achat. D'abord, ça a forcément limité votre capacité d'épargne et donc votre apport. Donc, les banques, elles regardent comment vous êtes financièrement pour réaliser votre projet. Et puis, quand on est à deux, malheureusement, ça reste plus sûr pour la banque d'avoir un salaire qui persiste en cas d'accident de la vie que quand vous êtes solo. Maintenant, une fois qu'on a dit que les solos étaient minoritaires par rapport au couple et que forcément, vu les conditions, ça se dure pour eux, on a quand même des femmes qui font l'acte d'achat, et elles sont de plus en plus nombreuses. Cette année, c'est 43% des solos qui font un achat qui sont des femmes.
Et alors, juste, les solos représentent combien en termes de pourcentage de...
En gros, entre 40 et 45% en fonction des années. Toujours beaucoup moins que les couples, hein, mais vraiment, ouais, pour cette histoire de revenus. Alors, pour les femmes, quand même, il y a un côté culturel, et Alison nous le confirmera, mais nous, on parle avec des femmes qui achètent seules depuis de nombreuses années. Hein. Ça a toujours été un prisme qui nous a beaucoup intéressé. C'est les femmes et l'immobilier. Et on voit qu'il y a quand même un changement culturel qui était très marqué il y a 10 ans, quand je parlais avec des femmes qui achetaient seules. Souvent, elles me disaient, mais dans mon entourage, on m'a dit que j'étais folle, que je devrais jamais me lancer toute seule. J'ai fait des rendez-vous banques où le banquier me disait, on n'attend pas monsieur. Non, en fait, j'achète seule. Quand elles voulaient faire des travaux comme Alison et qu'elles allaient dans des surfaces de bricolage, on leur disait, non, mais vous n'allez pas vous lancer là-dedans toute seule. Il faut un homme pour faire des travaux. Ça, c'était il y a une petite dizaine d'années, et c'était très marquant. J'avais même eu une femme à Nice qui m'avait dit, je fais mon premier achat immobilier, investissement locatif, je suis pas propriétaire de ma résidence principale, toute ma famille m'a dit que j'étais complètement folle de faire ce genre de projet toute seule. C'était très vrai il y a 10 ans, et ce qu'on voit aujourd'hui, les femmes avec lesquelles je parle, elles me disent aujourd'hui, c'est beaucoup, il y a beaucoup moins ce plafond de verre en immobilier patrimonial. On sent que les choses, elles se détendent, et puis nous-mêmes, on se dit qu'en fait, on n'est pas moins doué que les hommes pour faire de l'immobilier, et on doit avoir une considération patrimoniale de l'immobilier, parce qu'en fait, c'est une pierre importante dans la construction de notre vie, dans la protection de nos enfants. Alors là, Alison ne pourra pas dire le contraire.
C'est un bel exemple. Ouais.
C'est vraiment, l'immobilier, c'est une valeur. Alors, refuge, c'est du tangible, c'est quelque chose que vous pouvez construire au fur et à mesure. Vous bénéficiez de l'effet de levier dont on parlait avant la pause, qui est le taux de crédit. Et en fait, on sent bien que les choses, elles se détendent. Alors évidemment, elles n'ont pas les mêmes avantages que les hommes en termes de revenus et de capacité d'emprunt, mais on voit qu'elles mettent beaucoup plus d'épargne de côté. Elles sont beaucoup plus prudentes et elles font des projets beaucoup plus matures et plus raisonnés que les hommes.
Alors, vous le disiez, hein, 43% des solos sont des femmes, oui, qui viennent vous voir. Alison, justement, alors, est-ce que c'est pas... Il y a une évolution, Cécile le disait, depuis 10 ans, maintenant, les femmes achètent de plus en plus. Bon, on a quand même encore des réflexions. Hein. Moi, j'en ai eu il y a 3 ans, je faisais des travaux, on me regardait pas moi, on regardait mon mari, alors que c'était moi qui faisais les travaux, mais bon, bref. Ça arrive encore, mais les choses changent. Est-ce que c'est pas grâce à vous, enfin, aux gens comme vous, sur les réseaux...
Je sais pas jusque-là,
les réseaux, c'est vrai qu'on peut se former gratuitement, chez soi, le soir, après la télé, après avoir couché les enfants. On regarde une vidéo sur YouTube ou sur Instagram, on regarde vos stories, vous donnez des conseils. Est-ce que c'est pas ça qui aide les femmes? Et vous, votre communauté, est-ce qu'il y a des femmes, beaucoup de femmes qui vous suivent?
Pour le coup, il y a vraiment beaucoup de femmes qui me suivent. Ça, je m'y attendais pas. Un jour, je vais regarder les stats, mais par hasard. Et je vois quasiment 80%, 78% de femmes qui me suivent. Et là, je me dis, waouh, les choses commencent à changer, parce qu'au tout début, que j'étais sur Instagram, on était à peu près à 60% d'hommes.
D'accord.
Et plus le temps a passé, et finalement, pour en arriver là aujourd'hui. Donc, je me dis que déjà, mentalement, enfin, vraiment, les mentalités changent. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, tout à l'heure, Cécile parlait de l'épargne, les femmes épargnent. Et au même moment, juste avant ça, je me disais, mais pourquoi, en fait, on se dirait, bah, c'est normal d'épargner, mais c'est pas normal d'investir dans l'immobilier, alors que finalement, l'investissement immobilier rapporte beaucoup plus que l'épargne. Clairement. Donc, finalement, c'est... Pour moi, l'investissement locatif, c'est une sécurité, une sécurité en fait financière qui permet que qu'on ait du cash flow tout de suite ou que ce soit pour plus tard, peu importe si les gens veulent en vivre ou non. J'irais même jusqu'à dire qu'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi, que ce soit à l'école ou que ce soit pourquoi on n'en parle pas de l'investissement immobilier, parce que pourquoi on n'explique pas aux gens quoi faire avec leur argent. Pour qu'il n'en manque pas, en fait.
C'est vrai qu'il y a un manque d'éducation financière en France. Bah, c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas, sur Radio Patrimoine. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous reçoit. On essaye de faire ça chaque semaine, d'éduquer les gens. J'aimerais revenir un peu sur les chiffres, Cécile. En termes de pourcentage, les personnes qui viennent vers vous, alors que ce soit des hommes, des femmes, en termes de pourcentage, ce sont quoi ? Des célibataires, des divorcés, des veufs ? Comment ça se passe, vous qui avez une approche vraiment réelle sur le marché ?
C'est vrai que c'est très différent entre les hommes et les femmes en fonction du statut. On voit que chez les hommes, on a beaucoup plus de célibataires. C'est 87% des solos qui se lancent dans l'achat immobilier. Alors que chez les femmes, on va avoir quand même 80% de femmes célibataires, mais 18% de divorcées. Et on voit que souvent, dans l'acte d'achat immobilier, quel que soit le type de projet, hein, qu'on parle de résidence principale ou d'investissement locatif, les femmes, elles vont attendre un élément déclencheur, une mise sous pression ou un changement de situation pour se poser des questions sur la façon de construire leur patrimoine. Alors que chez les hommes, il y a vraiment cette notion de se dire je dois construire mon patrimoine et dès que je peux, je vais investir dans la pierre, je vais investir dans les placements financiers pour construire mon avenir. Chez la femme, c'est un peu plus subi et donc on a ces changements de vie. Alors, c'est l'investissement locatif n'est pas forcément le projet préféré des femmes, hein, clairement. On a encore du boulot, Alison, pour leur faire passer le message, parce que souvent elles préfèrent mettre un toit au-dessus de la tête de leur famille. Comme on a un peu plus de divorcés, on a souvent aussi un peu plus d'enfants à charge, parce que culturellement, les femmes gardent souvent les enfants encore aujourd'hui. Et du coup, on a un projet prioritaire pour elles, c'est souvent la résidence principale, que ce soit un premier achat ou que ce soit le rachat de la soulte, c'est-à-dire le fait de racheter le bien
des biens
conjoints, exactement, ouais. Lors du divorce. Et il y a cette volonté de constituer un cocon autour de la famille et de la protéger. Donc du coup, on va avoir aussi une différence en termes de projet. Les hommes vont plus facilement réaliser des projets d'investissement locatif avec cette volonté de construire un patrimoine, alors que les femmes, elles vont être beaucoup plus dans la protection avec l'achat de la résidence principale.
C'est intéressant, là, ce que vous disiez, l'aspect psychologique, la mise sous pression. Les femmes achètent quand elles sont mises sous pression. Alison, est-ce que c'est ce qui s'est passé pour vous ?
Moi, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est que premier achat, c'était avec le papa de mon fils, notre résidence principale. Hein, comme Cécile le disait, c'est exactement ça. C'est dû certainement au fait que j'avais mon fils.
Et donc, c'est une certaine mise sous pression aussi. C'est l'envie d'acheter un toit pour son fils,
voilà,
en fait.
Mais c'est exactement ça. Et parce que alors la location, normalement, c'est ce qu'on conseille, hein, quand on veut investir dans l'immobilier pour le taux d'endettement, pour tout ça. Maintenant, moi, je suis pas passée par cette case-là parce que je ne savais pas, en fait, tout simplement que c'était mieux de faire à l'inverse. Et je pense que c'est exactement ce que Cécile disait. J'ai commencé à investir dans l'immobilier au moment où je me suis séparée du papa de mon fils. Parce que là, on se dit...
J'ai plus le choix.
Il n'y a pas de filet de sécurité en dessous si jamais en fait il se passe quelque chose, on est seul. Et d'un côté, on n'a plus envie qu'il y ait ce filet de sécurité aussi. On a envie de le fabriquer nous-mêmes en fait. Et du coup, c'est l'immobilier qui permettait ça. Et moi, le jour-là, je me suis dit, mais en fait, faut dépendre de personne, faut avancer, parce que pour se sentir libre en fait, tout simplement, et que ce soit pas les finances en fait qui dictent notre vie. Est-ce qu'on doit rester en couple ou non? Est-ce que si on doit partir, si on veut partir, il faut qu'on puisse le faire en fait.
Et ça, je trouve ça remarquable dans votre discours, c'est vraiment cette notion de dire aux femmes, vous pouvez le faire, vous pouvez être seule, vous pouvez être indépendante, vous pouvez investir, réussir votre vie, devenir riche toute seule, sans avoir besoin d'un homme. Et c'est vrai que c'est on casse les codes en quelque sorte.
Clairement, mais on voit que les choses, elles changent beaucoup. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de femmes en sortie de crise sanitaire qui avaient des projets avec des conjoints. Les couples ont splitté parce que on s'est retrouvés confinés.
Parce qu'on est confinés H24 pour aimer la personne.
Et là, du coup, il y a des couples qui n'ont pas tenu. Et j'avais des jeunes femmes, hein, des femmes qui avaient moins de 30 ans, qui me disaient, en fait, on avait un projet immobilier avant. On s'est séparés. Et en fait, je me suis dit, mais il faut que je continue seule parce qu'en fait, mes projets ne s'arrêtent pas. La construction de mon patrimoine ne s'arrête pas. Et en fait, je mène mon projet seule. professionnelle. Alors c'est des moments de grand bouleversement parce qu'en fait vous avez à la fois des changements de vie et des grosses ruptures et puis en même temps vous devez réinitier des projets seuls que vous aviez envisagés à deux, donc psychologiquement c'est certainement plus lourd, mais en fait c'était des femmes qui étaient déterminées d'une façon assez incroyable et qui ont réalisé leurs projets. Aujourd'hui en fait je pense que les femmes sont leur pire ennemi parce qu'en fait on se dit qu'on peut pas le faire alors qu'en fait on a toutes les clés pour le faire et la construction patrimoniale ça n'a pas de sexe.
Ouais. Une chose que j'aimerais soulever avec vous, l'apport. L'apport est plus gros chez les femmes. Les femmes épargnent plus que les hommes, c'est ça ?
C'est assez hallucinant d'ailleurs parce qu'en fait elles ont des revenus inférieurs aux hommes et on parle en gros de 400 euros en moyenne pour un emprunteur solo femme versus homme.
Qui est énorme.
Oui, alors on est de l'ordre de quasiment 20% d'écart de REM entre ceux qui passent à l'action côté homme et côté femme. Par contre, elles mettent plus d'épargne de côté. Alors en général, elles préparent leur projet plus longtemps. Elles savent que ça va nécessiter des sacrifices et c'est ce que nous disaient les femmes qui avaient initié le projet, c'est qu'elles savaient qu'il fallait du temps, il fallait mettre de l'argent de côté, elles se sont serrées la ceinture et elles ont mis l'épargne de côté. Alors l'écart, il n'est pas non plus dingue. Les revenus, on a 500 euros d'écart en moyenne par mois, mais par contre, sur l'apport, on va avoir aux alentours de 3000 euros. Mais en fait, là aussi, ça prouve une détermination et une capacité à préparer un projet. Et elles ont raison parce que ça, c'est clé dans l'analyse du banquier. Si j'ai des revenus qui sont tenus, et si j'ai des charges maîtrisées et que je suis capable de démontrer au banquier que ma gestion financière, elle est irréprochable, que même si c'est difficile, je mets de l'argent de côté tous les mois, c'est que je suis en capacité de gérer un investissement locatif, de changer la chaudière qui tombe en panne, de participer aux charges de copropriété en tant qu'investisseur. Et en fait, c'est ça que le banquier va regarder. C'est la solidité du dossier et la capacité à faire front quand il va y avoir des difficultés. Donc, plus vous êtes en capacité d'épargner et à démontrer que vous avez une gestion financière irréprochable, plus vous avez de clés pour remporter le crédit.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau.
retour sur le plateau de l'Hebdo Patrimoine. C'était Juliette Armanet, le dernier jour du disco. Voilà, une chanson qu'on aime beaucoup.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
On parlait donc de l'immobilier des femmes, des chiffres donc des femmes qui achètent, hein, combien sont-elles, quels sont leurs rapports. On parlait des revenus moyens aussi mensuels. Hein, alors justement, quand une femme achète, le revenu moyen, c'est quoi ?
De 4000 euros en moyenne, quand pour un homme c'est 4005, donc ouais. Ça fait une différence significative sur la capacité d'emprunt, hein. C'est ce qui va beaucoup jouer sur leur capacité à investir, et pour compenser elles vont mettre un peu plus d'épargne de côté que pour les hommes. On voit aussi que en matière de taux d'endettement, elles ont tendance à être beaucoup plus prudentes que les hommes. Elles vont limiter leur taux d'endettement, elles vont faire en sorte de garder des marges de manœuvre budgétaires, et c'est certainement aussi pour ça qu'elles arrivent à séduire les banquiers. C'est qu'on voit bien qu'elles ont un profil extrêmement prudent. J'épargne plus, je prépare plus, mon dossier il est vraiment solide, et puis je montre au banquier que je garde des marges de manœuvre, que je ne serai pas en difficulté, parce que faut se rappeler que l'élément clé, hein, pour le banquier pour vous attribuer un crédit, alors même si on parle d'investissement locatif et que les loyers ont un poids important dans le remboursement de la dette, il y a quand même le besoin d'avoir un emprunteur qui est solide et qui va, en cas de vacances locatives, ne pas se retrouver en difficulté. Puis il y a un élément, alors parce que Alison fait des travaux et qu'elle rénove,
on va en parler, ouais, justement, ouais, allez-y non, dites.
C'est que les femmes n'ont pas peur de faire des travaux. Alors effectivement, en proportion dans leur projet, elles en font un peu moins que les hommes, avec des montants un peu moins importants, mais on a quand même un taux de travaux qui est de l'ordre d'un quart des projets chez les femmes, et je trouve que c'est super important parce que ça prouve qu'elles ont aussi pris en considération le fait que la valorisation de leur patrimoine y passait aussi par de l'engagement, et qu'elles avaient envie d'apporter leur pierre à l'édifice et de construire leur patrimoine en le valorisant.
Alors Alison, vous faites des travaux, on voit dans vos stories, c'est génial, hein, parce que vous faites des stories donc sur Instagram, c'est votre compte, c'est Vivre de l'immobilier. Et en fait, on a l'impression de faire les travaux avec vous, parce que vous expliquez tout. Voilà, vous montrez ce que vous achetez, vous nous emmenez sur les chantiers, vous faites des vidéos avant, après. Enfin, voilà, on découvre tout. Et c'est vrai que ça démocratise les travaux. Et quand on est une femme, bon, on peut se dire au début, oh, ça va être compliqué, c'est pas pour moi, j'ai pas assez de force. Et puis au final, on voit que vous y arrivez très bien. Alors comment vous faites ? Qu'est-ce que vous vous dites ?
Alors en fait, ce que je fais, c'est que là, aujourd'hui, je me dis... Donc tout ce qui est gros travaux, voilà, on casse des murs porteurs, on change les cuisines, les salles de bain, tout ça. Donc j'ai des artisans qui le font. Et d'ailleurs, il y a plein d'artisans en France de confiance. Le petit conseil que je peux donner, c'est essayer de prendre des artisans qui ont déjà travaillé chez des connaissances à vous. Ouais. Voilà, parce que si l'artisan ne peut pas vous montrer un de ses chantiers ou des choses comme ça, en général, n'y allez
compliqué.
Pas. Parce que voilà,
pour il y a pas mal d'arnaques quand même. Hein.
C'est
faut
pour
le
ça
dire,
que
hein,
ça je précise, Paris, parce que moi, je etc. me suis fait arnaquer ouais. deux fois avant de vraiment d'accord. trouver. Voilà. Donc aujourd'hui, je travaille avec des artisans, voilà, de confiance. Il y a pas de problème. Et ce que je montre sur Instagram, c'est donc les gros travaux. Donc je pense les plans parce que ça me plaît. Maintenant, on peut aussi déléguer les plans si on se sent pas. Donc je pense les plans. Eux, ils font les gros travaux. Et ce qui est petits travaux comme un mur de tasseau, par exemple, ou voilà un mur un peu différent, je vais le faire moi pour
c'est quoi un mur de tasseau ?
Un mur, par exemple, où on met des tasseaux de bois. D'accord. L'un à côté de l'autre pour apporter du cachet à l'appartement, ouais. parce que moi je vais vraiment sur la déco, tout ce qui est visuel de l'appartement, pour moi c'est très important, parce que je sais que c'est ça qui va faire que vous allez louer plus cher votre bien et que vous allez avoir plus de rentabilité. Et tout ce qui est petits travaux, donc on peut demander aux artisans de le faire, par contre ça va nous coûter beaucoup plus cher, alors que quand on le fait nous, ça va nous coûter quelques centaines d'euros et peut-être une après-midi. Du coup, je fais des comme un peu des tutos entre guillemets, en montrant ce qui est possible de faire pour dire bah voilà, ça je l'ai fait seul, vous pouvez aussi le faire. Ça va vous coûter 200 euros une après-midi et votre appartement, par contre, en 3 mois de location, vous avez remboursé vos 200 euros ou en 4-5 mois quoi. Donc ça, pour moi, c'est très important de faire les travaux, parce que aujourd'hui, parfois, je fais même plus de travaux que ce que j'ai acheté le bien à la base.
Ah
parce
oui.
Parce que je sais que c'est là que se trouve l'argent, finalement.
D'accord.
Donc c'est dans la négociation et dans les travaux.
Et alors, c'est-à-dire parce qu'il y a une règle qui dit que quand on fait 1000 euros de travaux par mètre carré, c'est voilà, ça sera un beau bien, ce sera assez luxueux. Est-ce que c'est vrai ou pas ?
Alors 1000 euros, c'est vraiment le prix que je donne. Alors en moyenne dans la France, parce qu'il faut savoir qu'en fonction des régions, les travaux, c'est pas du tout le oui. même prix. Mais 1000 euros, c'est vraiment la fourchette que je donne. Où à 1000 euros, alors il faut qu'il y ait toute la plomberie, l'électricité, on change les fenêtres. Là, on fait tout. Moi, je suis en moyenne aux alentours de 500-600 euros pour tout refaire quand même.
Par mètre carré.
Parce que, voilà, par mètre carré. Mais parce que je me pose la question de dire, ah bah voilà, je vais choisir cette cuisine-là noire mat, mais je vais mettre qu'un seul tiroir qui coulisse. Les autres, je vais mettre plutôt une étagère parce que ça coûte beaucoup moins cher. Là, le carrelage, là, c'est le même que celui-ci visuellement, mais il coûte moins cher. Mais ça reste quand même de la qualité. Attention, parce qu'il ne faut pas mettre du pas cher parce que pour le design locatif, sinon on doit tout le temps changer. Mais je vais acheter les mitigeurs, je vais regarder quand il y a les soldes. Enfin, voilà, plein de choses comme ça pour économiser de l'argent.
C'est vrai que quand on fait du locatif, acheter pas cher, c'est pas bien parce qu'au final, on achète plusieurs fois. Vaut mieux investir dans des matériaux de qualité un peu plus cher et on est sûr que ça va tenir 5, 10 ans.
Moi, dans ma famille, j'ai toujours entendu on n'a pas les moyens de payer pas cher. Parce que quand on paye pas cher, finalement, ça nous coûte beaucoup plus cher que si à la base, on avait pris quelque chose de qualité. Ouais. Donc, vraiment, il y a des choses comme par exemple les mitigeurs, c'est vraiment un exemple. Quand on prend du pas cher, tous les ans, il faut les rechanger.
C'est vrai.
Donc, ça, je sais, par exemple, que c'est une dépense. Ou, par exemple, aussi, les meubles de salle de bain. Moi, j'ai arrêté de prendre les meubles de salle de bain à 80 euros. Soit je prends des plus chers, soit je fais faire même des meubles de salle de bain en carrelage. Ça me coûte plus cher, au moins 3 ou 4 fois le prix. Par contre, une fois qu'il est fait,
vous êtes tranquille.
Il n'y a plus de problème.
Cécile, qu'est-ce qu'il en est de l'enveloppe travaux, du coup, des hommes par rapport aux femmes ?
Alors, du coup, on a effectivement à peu près une part de projets qui sont à peu près équivalentes. Mais si on regarde dans le détail, en fait, on va avoir des femmes qui vont faire en moyenne 4 à 5 000 euros de travaux en moins dans le bien dans lequel elles investissent. Donc, on n'est pas non plus là sur des montants qui sont très, très différents. Mais moins de 55 000 euros pour les femmes et quasiment 59 000 pour les hommes. Ça prouve qu'il y a quand même aussi une volonté des femmes d'améliorer le bien, comme Alison le dit tout de suite. Il y a cette volonté de valoriser le patrimoine. Il y a cette notion que pour louer, il faut avoir le bon bien et le bien qui va séduire. On parlait tout à l'heure de l'importance du choix du bien. C'est vraiment un élément clé dans un investissement locatif et le banquier va être très attentif à ce point-là. Si vous choisissez un bien dans un secteur qui n'est pas suffisamment coté ou le banquier a peut-être déjà financé des projets dont il sait qu'ensuite il a eu des loyers impayés, des propriétaires en difficulté, le banquier ne va pas y aller. Si vous montrez en plus dans votre projet que vous avez intégré une enveloppe de financement pour des travaux, que vous allez rénover le bien et que du coup, vous allez lui apporter de la valeur ajoutée, que vous allez avoir donc plus de chances, comme Madison le disait, de le louer, vous allez rassurer là aussi le banquier. On est vraiment sur le nerf de la guerre. Hein. Investissement locatif égale rassurance du banquier, démontrer que le dossier est solide et que derrière, il y a des loyers qui vont être perçus. Et ce qui est top, c'est que les femmes, elles ont de moins en moins peur de faire des travaux. On le disait tout à l'heure, il y a quelques années, et encore vous, Bérénice, vous le rencontriez il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait quand même quelques barrières aux travaux réalisés par les femmes. Aujourd'hui, on a quand même plein de moyens, plein de tutos, plein d'influenceurs qui nous expliquent comment Alison, comment faire les choses. Et la valorisation du bien, elle passe vraiment par le homestaging, la décoration, c'est l'assurance de louer, c'est l'assurance de vendre aussi, parce que quand on fait de l'investissement immobilier, on n'a pas volonté, la plupart du temps, de garder le bien pour les 50 prochaines années. On n'est pas dans un achat de cœur, on est dans un achat de raison, dans un investissement. Donc, il y a bien un jour où on va vendre le bien. Alors, si vous êtes dans des dispositifs fiscaux d'accompagnement comme du Pinel, vous ne posez pas trop la question parce que vous achetez du neuf. Mais on voit bien qu'avec la pénurie de biens dans le neuf, il y a de plus en plus de biens dans l'ancien. C'est là qu'il y a des possibilités de faire aussi des plus-values parce que vous allez rénover et vous allez donner du cachet à un appartement qui était peut-être encore dans son jus ou qui avait besoin d'un coup de jeune. Et donc, ces biens-là, vous n'allez pas les garder 10 000 ans. Vous allez effectuer des opérations par escalier. Je commence par en acheter un ou deux petits et puis je m'en revendrai un pour en acheter un plus grand et puis peut-être que j'en achèterai deux grâce à la plus-value. Et donc, la valorisation, l'enveloppe travaux, elle est super importante pour valoriser ces biens.
Au final, alors Alison, c'est un peu ce que vous avez fait. Vous avez présenté un programme complet au banquier. J'achète ce bien, je vais faire ça, il y aura tant pour les travaux, tant pour la décoration, tant pour les meubles, et au final, c'est ce qui plaît au banquier, en fait. C'est un discours ferme, vous montrez que vous êtes réaliste, que vous connaissez le marché et le milieu, et ça rassure les banquiers.
C'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, à chaque fois, le conseil que je donne le plus sur Instagram, c'est faites un dossier béton. J'appelle ça comme ça parce que clairement, c'est ça. Ouais. Et c'est vraiment, on analyse le secteur, mais on analyse aussi le bien. Je vais jusqu'à faire des plans 3D du rendu après en disant, voilà, entre-temps, j'ai mis tant de travaux. Ensuite, il va valoir tant. Si demain, j'ai besoin, même si à la base, je n'achète pas pour revendre, je ne suis pas marchand de biens. Par contre, s'il arrive quoi que ce soit et que je dois revendre, à l'instant T où je finis les travaux, ça a déjà pris tant. Comme ça, il voit que il prend pas de risque. Ensuite, aussi au niveau du loyer, regardez combien il louait avant, regardez-moi avec ses travaux jusqu'où je vais aller. Et d'ailleurs, il y a une question qui m'intéresserait de savoir, c'est Cécile disait qu'en moyenne, il y a entre 4 et 5 000 euros de travaux en moins pour les femmes que pour les hommes, mais je suis pas sûre que le rendu sur les 4 et 5 000 euros là rende différent.
C'est vrai, le goût des femmes.
Il faudrait qu'elle vous envoie des photos après.
Ça m'a. Je suis certaine que je suis prête à parier que non.
Ouais.
Mais parce qu'en fait, pour moi, donc au niveau des travaux, on a dit on fait quelque chose, voilà, quand même de qualité, mais on va pas dans les extrêmes, on va pas mettre du marbre, voilà, mais on va dans des choses de qualité. Mais la déco joue énormément. Ça veut dire que je dis n'importe quoi, vous avez un canapé Le Corbusier dans votre appart, les gens vont associer l'appartement à vraiment quelque chose de luxueux et de très onéreux, alors que pas forcément. Donc il faut savoir que au niveau de la décoration, en gros, si vous faites une décoration qui est simple, même tout blanc, vous n'allez pas vous démarquer des autres. Et l'important, c'est de faire du différent. Et quand vous regardez sur le bon coin ce qu'il y a à louer, vous avez quand même de la marge, enfin vous pouvez.
Il y a de la place.
Voilà, c'est ça.
Donc faire attention à chaque étape. Le diable est dans les détails en fait.
Et c'est exactement
tout compte
ça.
Quand on veut louer un appartement, acheter et louer. L'émission touche à sa fin, hélas. C'est vrai qu'on aurait continué encore pendant de nombreuses minutes. Merci d'être venue sur le plateau. Merci Alison Janglin.
Avec plaisir.
Merci Cécile Reclore.
Avec plaisir également.
Et évidemment, on peut vous retrouver donc sur Instagram Vivre de l'immobilier et Cécile du coup chez Empruntis.
Exactement. En voilà. Agence ou sur internet.
Super. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Hebdo Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.